Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre.
Tu restes un petit temps. Est-ce que tu essaies de te finir de te raser après ou pas?
J'essaye de finir. J'essaye d'être le plus...
Très bien. Ça te demande vraiment un effort. Mais quand je te dis vraiment un effort, c'est-à-dire que tu commences et t'as la main qui tremble. En fait, au-delà de la simple tâche, c'est que... En fait, tu es plein de sang. Tu te nettoies, ça te lance. T'as la joue ouverte. Hein, Tu dois malgré tout couper autour et en même temps tu repenses au fait qu'il faut pas te couper. Enfin, en fait, tu t'es embarqué, tu vois, t'as l'impression, pour prendre un exemple plus moderne, d'être en voiture à essayer, tu sais, de faire un créneau impossible. T'es un peu au milieu. C'est le moment où tu sais que c'est pas possible de repartir si facilement.
Je dois continuer, je ne peux pas m'arrêter.
Finir, voilà, c'est ça. Et donc là, tu le fais. Ça te demande un vrai effort. Et comment tu t'occupes de ta blessure? Est-ce que tu essaies d'aller dans la chambre de Célia, peut-être, ou à l'accueil pour essayer de trouver un... Parce que là, c'est une vraie blessure.
Je pense que j'essaie de faire ce que je peux. Puis tu sais, je sors dans le couloir et j'arrive devant la porte. Et tu sais, il y a ma main juste devant. Et tu sais, je tapote, je suis honteux et je tapote tout doucement à la porte.
Très bien. Tu toques à la porte. Il n'y a pas de réponse.
Je reviens dans ma chambre. Je vais chercher un mouchoir. Peut-être que je vais chercher une des chemises que j'aime le moins. J'essaie de faire quelque chose autour de ma joue. Peut-être de serrer. Quelque chose de pas malin.
Ouais.
Pour essayer d'arrêter ce scénario.
Ouais, j'estime que voilà, tu utilises les premiers soins comme tu peux et voilà, tu tentes. Et honnêtement, t'arrêtes le saignement. Tu fais un système de une sorte de bandage autour de la tête un petit peu ridicule, mais qui est efficace. Et honnêtement, à la fin, t'en as tellement marre que tu t'endors, en fait, là-dedans, la face entre... Tant pis s'il y a du sang dans le lit. Voilà. Et tu t'endors tranquillement, malgré tout. Raymond, à qui envoies-tu un télégramme?
J'envoie un télégramme à mon professeur Myers.
Très bien.
Pour lui demander des informations. Je lui dis que j'ai une piste pour des recherches effectuées au Caire. Et que je cherche des informations sur Sir Penhu. Reprendre la trace de d'une expédition qui a existé et aussi savoir si l'expédition de Carlyle, notamment, était liée à une université quelconque pour les recherches.
D'accord. Tu envoies donc ton télégramme. Est-ce que tu fais autre chose de ta soirée?
Je pense que je passe ma... En vrai, je passe ma soirée à reconsulter toutes mes notes, même mes notes depuis le Pérou, en fait, pour essayer de faire un lien mental entre tout ce qui s'est passé. Essayer de comprendre ces histoires de Dieu, ces histoires de folklore, ces histoires de... Puis je me rappelle aussi le moment où, avec ce masque, ce miroir que parlait Luca.
Ouais.
Et d'ailleurs, je me dis, on sait pas où est-ce qu'il est, en fait.
Non, vous ne savez pas. Vous n'êtes pas retourné à l'hôtel où Luca l'avait trouvé. Enfin, je crois que toi, tu y es retourné à l'hôtel, mais je ne crois pas que tu aies cherché les chambres spécialement. Et de toute façon, c'était dans la chambre de Mendoza qui a, aux dernières nouvelles, disparu devant vous en poussière.
Voilà. Et en fait, je rumine un petit peu tout ça et essayer de faire un sens à tout ça, mais surtout essayer de trouver un axe de... Je fais vraiment de façon très académique avec de la méthode pour essayer de trouver un véritable axe de recherche.
Tu passes donc ta soirée à ça, un petit peu fatigué, honnêtement. Et tu t'endors à l'ancienne. Ça fait un petit moment que ça t'est pas arrivé dans tes notes. Sur ton bureau, tu te réveilles heureusement durant la nuit. Tu vas te coucher dans un lit un peu plus confortable et qui t'évitera d'avoir un mal de dos au réveil. Mais voilà, tu t'es endormi dans tes notes, mais t'as quand même avancé. Luca, Célia, Raymond, vous réveillez le lendemain matin. Vous vous préparez tous les trois pour être prêts pour, en tout cas au mieux, pour être prêts pour votre rendez-vous avec Erica Carlyle. Et alors que vous descendez dans le hall de l'hôtel pour attendre, vous recevez un télégramme de la journaliste qui vous annonce la bonne nouvelle que vous avez un rendez-vous à la prison cet après-midi et qu'elle est désolée de vous prévenir au dernier moment, qu'elle espère que vous êtes disponible et qu'il faut répondre à ce télégramme immédiatement si vous l'êtes, c'est-à-dire en début d'après-midi, vers 15h.
Ok, on lui répond, on y va.
Très bien. Vous envoyez la réponse et donc vous vous retrouvez. Et là, vous vous rendez compte, Célia et Raymond, que Luca a une énorme balafre sur la joue gauche.
Oh non, tu t'es encore rasé tout seul.
Ça se voit vraiment tant que ça?
Alors, on parle d'une balafre qui fait 10 cm. C'est vraiment une balafre, il n'y a pas d'autre mot.
Mais Luca, à la limite, la barbe, ça te va très bien.
Mais non, mais c'est pas ça, en fait, c'est... Non, mais ça me saoule. Non, mais c'est juste que...
Tu t'es désinfecté, au moins?
Est-ce que je me suis désinfecté?
Tu te rappelles pas trop. Peut-être que t'as mis de l'eau et du savon.
Et puis, j'ai essayé de toquer, en fait. Je voulais pas te réveiller, mais t'étais pas dans ta chambre. Et du coup, après, je suis revenu faire un espèce de bandage.
Mais tu t'es endormi sur ton rasoir, c'est pas
mais
possible.
Mais non, mais en fait...
Comment tu...
Non, mais c'est comme le... C'est comme à Vienne, en fait. C'est juste que on va rencontrer une personne qui en vrai, peut vraiment nous aider. Et juste, je voulais... Tu sais, je passe mes mains de bas en haut devant mon corps et je voulais être présentable, en fait. Et c'est juste... après, il y a tout qui est revenu en tête. Je vous passe les détails.
Et pourquoi tu te contentes pas de faire quelque chose de plus simple? Parce que tu... C'est clairement pas te raser, en fait.
Non, mais toi, si tu fais rien, ça te va. Enfin, moi, il faut que je fasse... Enfin, c'est bon, on va pas parler de ça non plus, mais ça me va. Donc, on va cet après-midi à la prison, c'est ça? Et là, on va voir tout de suite Erica Carlyle.
Oui.
Café ou...
Ah oui. J'étais pas dans ma... Je sais pas à quelle heure t'as... Je suis rentrée tard, en fait.
Putain, elle nous fait bailler. J'étais... attends, c'était quoi? J'ai passé un coup de fil au magasin. J'ai tenté de faire ce que j'ai fait. Écoute, t'es quand même... avant minuit, mais...
Non, mais je suis rentrée vers 2h du matin.
Ah!
Par contre... attends, quelle heure il est? Ouais, bon, je vous raconte rapidement.
Il faut pas sortir sans nous prévenir, hein.
Sans vous prévenir, on est tous, vous savez tous que je suis allée envoyer un télégramme et après j'ai décidé de me renseigner sur le docteur Stone. Et c'est-à-dire qu'il y avait plus. C'est quelqu'un qui a une vie mouvementée, quoi. Et du coup, je leur raconte rapidement ce que j'ai appris sur le docteur Stone, donc qui est un personnage un peu louche, qui lui aussi a fait un petit séjour à Vienne pour étudier avec Freud et Jung et qui, du coup, est parti dans l'expédition Carlyle juste après le suicide. De sa maîtresse, en gros, qui a été couvert par Roger Carlyle, donc une affaire Voilà, je leur raconte ce que je peux. Ouais. Une affaire sombre.
Tu fais un résumé global de ce que t'as appris, de ce que tu te souviens, et tu leur dis que tu leur montreras peut-être tes notes un peu plus tard. Enfin voilà, là peut-être que entre le toast et les haricots, c'est peut-être pas le moment. Mais voilà. Vous finissez donc de vous préparer, vous attendez, et puis, eh bien, vous voyez arriver votre chauffeur. Ce n'est pas n'importe quel véhicule qui arrive. C'est une Rolls-Royce Silver Ghost. À l'époque, très chère. En 1925, vraiment très chère. À l'heure actuelle, hein, en 2023, elle est considérée comme la voiture la plus chère au monde. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, en 2009, elle était estimée à 57 millions de dollars. La voiture. Certains modèles approchent à l'heure actuelle du million de kilomètres et fonctionnent toujours parfaitement après 100 ans d'utilisation. Voilà. C'est pas une petite voiture. C'est vraiment, peut-être, l'une des plus belles voitures du monde et des plus efficaces du monde.
Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ce genre de voiture-là, je suis tombé une fois sur un article il y a quelques années d'une voiture qui a été retrouvée comme ça dans une rivière dans le Miskatonic.
Non, mais tu déconnes, c'est pas...
Si
enfin, quel connard fait ce genre de choses ?
C'est bien, ça te dit vaguement quelque chose. Quelqu'un qui, oui, aurait perdu le volant. D'ailleurs, quelqu'un d'une famille assez influente. Voilà, un lien peut-être avec des bananes, tu n'es pas sûr. Et le chauffeur vous accueille, il est cordial, mais ne parle pas. c'est son travail, il ne parle pas avec vous. Et donc, vous conduisez, la route est agréable. Vous remontez vers Westchester, le long de l'Hudson River. Sur la route, vous entrevoyez la sinistre prison de Sing Sing, votre destination de cet après-midi. Puis après une grosse demi-heure de route, vous arrivez face à une sublime propriété. Le chauffeur fait un signe à deux gardiens visiblement armés qui ouvrent la grille de métal. Vous parcourez des jardins sublimes au rythme ronronnant de la voiture. Vous voyez quelques gardes patrouiller avec des chiens de garde. Vous arrivez alors devant le manoir. Immense. Il y a deux étages face à vous de luxe. Les portes s'ouvrent alors que vous sortez du véhicule et vous voyez Bradley Gray qui laisse ensuite passer Erica Carlyle. Vous ne l'aviez vue qu'en photo dans quelques journaux. Clairement, ces photos ne lui rendait pas justice. Elle est très belle. Presque intimidante de beauté. Sa peau est pâle, accentuée par quelques touches de maquillage parfaitement appliquées. Ses vêtements sont à la mode européenne, sublime. Elle porte les cheveux courts et bouclés. Et vous pouvez voir passant difficilement par la porte une véritable armoire à glace. Ses yeux sont des dagues bleues qui traversent votre âme. Clairement d'origine italienne, son nez a tellement de fois été brisé qu'il n'a plus de forme propre. Il semble vous analyser quelques instants, puis vous sourit poliment. Bradley fait rapidement les présentations. Mademoiselle Erica Carlyle et son garde du corps, Joe Corey. Erica vous regarde, elle vous semble vous toiser tel un chat. Vous dites avoir des preuves que des membres de l'expédition de mon frère seraient en vie.
C'est exact.
Très bien, venez. Et vous rentrez dans cet immense manoir, entouré de gardes, de chiens, perdu un peu au milieu de nulle part. Vous entrez tous les trois dans un incroyable salon. Très bien décoré. on n'est pas dans l'excès que vous aviez vu à Vienne. On est vraiment dans quelque chose qui, si vous aviez de l'argent, vous aimeriez bien vivre ici. C'est vraiment très, très, très bien décoré. Immédiatement, je vous regarde et je m'excuse de la présence armée. J'ai eu quelques personnes ayant tenté de s'introduire dans le manoir par la bibliothèque des voleurs, je suppose. Très bien. Vous voyez que Joe Corey, son garde du corps, est dans la pièce. Hein. Il est avec vous. Il n'écoute pas forcément. Vous voyez qu'il a l'air en train d'observer un petit peu les alentours. Vous voyez régulièrement d'ailleurs des personnes qui gardent le manoir passé devant les fenêtres.
Bradley Gray est encore avec nous ?
Bradley Gray, je pense qu'il s'est excusé. Il est là, et vous savez qu'il est rentré avec vous dans le salon, mais il s'est excusé dans une autre pièce. Il n'est pas là.
Écoutez, vous avez demandé à nous voir plutôt rapidement. Je pense que l'entretien que nous avons eu avec Monsieur Gray a dû attirer votre attention, et je suis content que vous nous ayez contacté. Je pense que vous avez des questions par rapport à votre frère, Monsieur Carlyle.
Oui. Qu'est-ce qui vous amène à penser que lui ou quelqu'un d'autre soit encore en vie ? Je me permets de mettre un doute là-dessus.
Nous avons des raisons de penser que Jack Brady a été vu vivant après la fin de l'expédition.
Mm-hmm.
Je ne sais pas ce qui s'est passé lorsque vous êtes rendu en Afrique sur les traces de votre frère. Mais il semblerait qu'au moins une personne ait réussi à en réchapper. Je ne sais pas si vous connaissiez Jack Brady. Je ne sais pas si vous avez entendu cette rumeur de la bouche de quelqu'un d'autre. En tout cas, nous connaissions quelqu'un qui était comme vous sur les traces de cette expédition.
Quelqu'un très fiable, même.
Tu vois qu'elle semble réfléchir, vous jauger un petit peu et vraiment réfléchir. Et puis elle fait... Dès le départ, je savais que l'expédition africaine de Roger n'était pas simplement une lubie de plus. J'ai perçu que quelque chose d'étrange, d'imperceptible, fascinait et inquiétait mon frère. Cette femme noire, Bunet, était à l'origine de l'obsession de Roger. Vous sentez qu'il y a clairement un goût dans sa voix qui connote un racisme certain. Cette passion que mon frère avait pour cette noire montre quelle dépravation l'habitait. Dès que cette femme est entrée dans sa vie, de je ne sais où d'ailleurs, Roger a commencé à faire d'étranges rêves dans lesquels quelque chose ou quelqu'un l'appelait et le poussait à agir.
Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet. Et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.